Chapitre 16. Plus tard, des années plus tard, j'entendrai la chanson relatant notre rencontre. Bien que le garçon qui la chantait soit inexpérimenté, manquant les notes plus souvent qu'il ne les réussissait, la douce mélodie des vers resplendissait malgré sa piètre performance. Je ne fus pas étonnée du portrait qu'on y faisait de moi. La fière sorcière s'avouant vaincue devant l'épée du héros, s'agenouillant et demandant grâce. Il semble que punir les femmes soit le passe-temps favori des poètes, comme s'il ne pouvait pas y avoir d'histoire à moins que nous ne rampions en pleurant. Nous couchâmes ensemble dans mon grand lit doré. J'avais eu envie de le voir s'abandonner dans le plaisir, passionné, mis à nu. S'il ne se dévoila jamais, je vis le reste. Nous trouvâmes une forme de confiance. « Je ne viens pas vraiment d'Argos », me raconta-t-il. La lueur tremblotante des flammes nous éclairait, projetant de longues ombres sur les draps. « Mon île s'appelle Ithaque. Elle est trop rocheuse pour les vaches. Nos activités vont de l'élevage de chèvres aux oliveraies. Et la guerre ? Était-ce aussi une fiction ? La guerre était bien réelle. » Il ne se reposait jamais. On aurait dit qu'il était toujours prêt à parer un coup d'épée surgi de nulle part. Pourtant, une lassitude avait commencé à poindre en lui, pareil au rocher que la marée découvre. Les lois de l'hospitalité m'interdisaient de le questionner avant qu'il ait pu se nourrir et se rafraîchir, mais nous avions dépassé le stade de ses convenances. « Tu disais que votre voyage a été difficile ? J'ai quitté Troie avec 12 navires. » Dans la lumière jaune, son visage buriné et plissé ressemblait à un vieux bouclier. « Il ne reste plus que nous. » Malgré moi, je fus choquée. 11 navires équivalaient à plus de 500 hommes. « Comment avez-vous pu essuyer un tel désastre ?» Il récita son histoire comme une recette de cuisine. Des tempêtes les avaient envoyés presque au bout du monde. Les contrées qu'ils traversaient étaient remplies de cannibales et de sauvages vengeurs, de sybarites qui les droguaient pour annihiler leur volonté. Le cyclope Polyphème, géant féroce à l'œil unique, fils de Poséidon, leur avait tendu une embuscade et avait dévoré une demi-douzaine de ses hommes avant de sucer leurs os. Ulysse avait été obligé de l'aveugler pour s'échapper. Désormais, Poséidon le pourchassait à travers les vagues pour se venger. Rien d'étonnant à ce qu'il boite et qu'il ait le teint gris. Voilà un homme qui s'est retrouvé face à des monstres. Et maintenant, Athéna, mon guide de toujours, m'a tourné le dos. Je n'étais pas surprise d'entendre son nom. Cette intelligente fille de Zeus honorait la ruse et l'invention par-dessus tout. Et Ulysse était exactement le genre d'homme qu'elle chérissait. Comment l'as-tu offensé ? Je n'étais pas sûre qu'il répondrait. Toutefois, il prit une profonde inspiration. La guerre est source de beaucoup de péchés, et je n'ai pas été le dernier à les commettre. Quand je lui demandais son pardon, elle me l'accordait toujours. Et puis la cité a été mise à sac. Des temples ont été rasés, le sang a été répandu sur les autels. Faire couler le sang sur les objets sacrés des dieux constituait le sacrilège suprême. J'ai pris part à ces actes comme les autres, mais quand ils sont restés pour offrir leurs prières, je ne les ai pas accompagnés. J'étais impatient. Il y avait 10 ans que tu combattais, c'est compréhensible. Tu es indulgente, mais je crois que nous savons tous les deux que c'est faux. Dès que je suis remontée à bord, la mer autour de moi m'a montré son visage furieux. Le ciel s'est assombri, prenant la couleur du fer. J'ai essayé de faire rebrousser chemin à la flotte. C'était trop tard. L'orage d'Athéna nous a poussés très loin de Troie. Il frotta les articulations de ses mains comme si elles étaient douloureuses. Et maintenant, quand je lui parle, elle ne répond plus. Un désastre après l'autre. Malgré sa grande fatigue et son chagrin, il avait tout de même pénétré dans la maison d'une sorcière. Il s'était assis devant ma cheminée, en ne laissant rien transparaître sauf son charme et ses sourires. Quelle résolution cela avait dû lui demander, quelle volonté. Mais tous les hommes ont leurs limites. L'épuisement marquait ses traits, sa voix était rauque. Je l'avais comparé à un poignard, mais je vis qu'il était déchiré jusqu'à la moelle. Une douleur me serra la poitrine par mimétisme. Bien que l'emmener dans mon lit ait représenté une forme de défi, le sentiment qui montait en moi par intermittence était beaucoup plus ancien. Il était là, sa chair à vif devant moi. Voilà quelque chose de cassé que je peux réparer. Je soupesais cette pensée dans ma main. À l'arrivée du premier équipage, j'étais une pauvre chose désespérée, prête à se pâmer devant tous ceux qui lui souriraient. À présent, j'étais une cruelle sorcière qui prouvait son pouvoir en remplissant sa porcherie jour après jour. Ce constat me rappela soudain les épreuves qu'Hermès me faisait jadis passer. Serais-je une petite nature pleurnicharde ou une garce? Une mouette stupide ou un vilain monstre? Il ne devait pas y avoir que ces deux possibilités. Je cherchai ses mains et le relevai. Ulysse, fils de Laërte, tu as été sous pression. Tu es aussi sec que les feuilles en hiver. Mais tu trouveras asile ici. Le soulagement que je lus dans son regard me réchauffa le cœur. Je le conduisis dans la grande salle et demandai à mes nymphes de lui apporter du réconfort, de lui faire couler un bain dans la baignoire en argent et de lui apporter des vêtements propres. Ensuite, il resta debout devant les tables où nous avions empilé des victuailles, propres comme un sou neuf. Pour autant, il ne fit pas mine d'aller s'asseoir. « Pardonne-moi, » s'excusa-t-il sans me quitter des yeux. « Je ne peux pas manger. » Je savais ce qu'il voulait. Il ne tempêta pas, ne supplia pas, attendant juste ma décision. Autour de moi, l'air me parut enluminé d'or. « Viens !» lui enjoignis-je en sortant de la pièce pour me diriger vers la porcherie. La porte de l'enclos s'ouvrit toute grande dès que je posai la main dessus. Les cochons glapirent, mais quand ils virent Ulysse derrière moi, leur terreur s'apaisa. Je frottai de l'huile sur les groins de chaque pourceau avant de prononcer l'enchantement. Une fois leur soie tombée, ils reprirent forme humaine et coururent en pleurant vers Ulysse, pressant leurs mains dans les siennes. Lui aussi pleura, sans bruit mais abondamment, jusqu'à ce que sa barbe en devienne sombre et trempée. On aurait dit un père et ses enfants rétifs. Quel âge avaient-ils au moment de leur départ pour Troie? La plupart d'entre eux n'étaient sans doute encore guère plus que de jeunes garçons. Je restai un peu à l'écart, tel un berger surveillant son troupeau. « Bienvenue, » leur dis-je, dès que leurs larmes commencèrent à se tarir. « Tirez votre navire sur la grève et amenez vos camarades. Soyez tous les bienvenus. » Ce soir-là, ils mangèrent de bon appétit, riant et portant des toasts. Ils paraissaient plus jeunes, régénérés par le soulagement. La lassitude d'Ulysse s'était, elle aussi, envolée. Je l'étudiais depuis mon métier à tisser, intéressé de découvrir une autre de ses facettes, le commandant avec ses hommes. Il accomplissait cette tâche aussi bien que les autres, se montrant amusé par leur pitrerie, gentiment réprobateur mais d'un calme rassurant. Ils tournaient autour de lui comme des abeilles autour de leur ruche. Une fois que les plateaux furent vides et que les hommes commencèrent à s'affaisser sur les bancs, je leur distribuai des couvertures en leur suggérant de trouver des lits là où ils se sentiraient à l'aise. Si quelques-uns s'étendirent dans les pièces vides, la plupart allèrent dormir dehors, sous les étoiles d'été. Ne restait plus qu'Ulysse. Je l'emmenai jusqu'au siège argenté, près du feu, pour lui verser du vin. Son expression était aimable, et il se pencha de nouveau en avant, comme s'il était ouvert à toutes mes propositions. « Ce métier à tisser que tu as admiré, » dis-je, « il a été fabriqué par l'artisan Dédale. Connais-tu son nom ?» Je fus heureuse de sa surprise, aussi ravie qu'authentique. « Pas étonnant que ce soit une telle merveille. Je peux ?» J'inclinai la tête et il s'en approcha sans tarder. D'un doigt, il suivit les contours de ses barres, de bas en haut. Il les touchait avec révérence, tel un prêtre devant son autel. « Comment s'est-il retrouvé en ta possession ?»«
Un cadeau. »
Bien que ses yeux soient emplis de spéculation, voire d'une vive curiosité, il n'insista pas. Lorsque j'étais enfant et que tout le monde jouait à terrasser les monstres comme Hercule, moi je rêvais plutôt d'être Dédale. Il me semblait qu'il fallait posséder un plus grand génie pour imaginer des merveilles en regardant du bois brut et du fer. J'ai été déçue de découvrir que je n'avais pas le talent nécessaire. Je me coupais toujours les doigts. Je pensais aux cicatrices blanches sur les mains de Dédale. Cependant, je me retins. La main d'Ulysse reposait sur la barre latérale du métier, comme s'il s'agissait de la tête d'un chien adoré. « Puis-je te voir tisser avec ?» demanda-t-il. Je n'étais pas habituée à avoir quelqu'un si près de moi pendant mon travail. Le fil sembla s'épaissir et s'en mêler entre mes doigts. Son regard suivait chacun de mes gestes. Il me posa des questions sur le fonctionnement de chaque pièce, ce qui distinguait ce métier des autres. Je lui répondis de mon mieux, même si je dus finir par avouer que je n'avais aucun point de comparaison. C'est le seul que j'ai jamais utilisé. Quel bonheur ce doit être! La même chose que de boire du vin toute sa vie et non de l'eau, ou d'avoir Achille à sa disposition pour courir apporter ses messages. Je ne connaissais pas ce nom. La voix d'Ulysse coula comme celle d'un barde. Achille, prince de Phthie, le plus rapide des Grecs, le meilleur des guerriers achéens à Troie. Beau, brillant, fils de l'effrayante Néréide Thétis, aussi gracieux et meurtrier que la mer elle-même. Les Troyens étaient tombés devant lui comme l'herbe sous la faux, et le puissant prince Hector en personne avait péri au bout de sa lance à manche de frêne. « Tu ne l'aimais pas, » remarquai-je. Une sorte d'amusement intérieur affleura sur son visage. D'une certaine façon, je l'appréciais. Cela dit, c'était un piètre soldat, indépendamment du nombre d'hommes qu'il pouvait saigner à blanc. Il nourrissait aussi quelques idées gênantes sur la loyauté et l'honneur. Chaque jour, c'était un nouveau défi de le maintenir allié à notre cause et de le garder dans le droit chemin. Et puis la meilleure partie de lui est morte, et ensuite il s'est montré encore plus difficile. Mais, comme je l'ai dit, sa mère était une déesse, et les prophéties s'accrochaient à lui à la manière des algues marines. Il se débattait avec des problèmes d'une ampleur que je ne comprendrai jamais. Si ce n'était pas un mensonge, ce n'était pas non plus la vérité. Il avait dit qu'Athéna était sa patronne. Il avait marché aux côtés de ceux qui peuvent briser le monde comme une coquille d'œuf. Quelle était sa meilleure facette ? Son amant, Patrocle. Il ne m'aimait pas beaucoup, mais après tout, les gens bien ne m'apprécient jamais. À sa mort, Achille est devenu fou, presque fou en tout cas. Je m'étais détournée du métier, désireuse de voir son visage quand il parlait. Derrière les fenêtres, le ciel nocturne se teintait peu à peu de gris. Une louve soupira dans ses pattes. Je le vis enfin hésiter. « Dame Circé, » reprit-il, « sorcière dorée d'Éa, tu nous as accordé ta clémence et nous en avions besoin. Notre bateau est abîmé, mes hommes sont au bord de l'effondrement. J'ai honte de t'en demander davantage, mais je crois que je le dois. Dans mes espoirs les plus fous, nous resterons un mois. Est-ce trop long ? » Une explosion de joie, pareille à du miel dans ma gorge. Je parvins malgré tout à rester impassible. Je ne pense pas qu'un mois sera trop long. Il passait ses journées à travailler sur le navire. Le soir, nous nous asseyions devant l'âtre pendant que ses hommes mangeaient, et la nuit, il me rejoignait dans mon lit. Ses épaules étaient épaisses, sculptées par ses heures au combat. Je laissais courir mes mains le long de ses cicatrices irrégulières. Il y avait là des plaisirs, mais en vérité, le plus grand d'entre eux, je le prenais ensuite, lorsque nous étions étendus côte à côte dans l'obscurité et qu'il me racontait les histoires de Troie, me dépeignant la guerre, lance contre lance. Le fier Agamemnon, chef de l'armée, aussi cassant que du fer mal trempé. Son frère Ménélas, dont l'enlèvement d'Hélène, son épouse, avait déclenché les hostilités. Ajax, courageux mais lent d'esprit, et bâti comme une montagne. Diomède, l'impitoyable bras droit d'Ulysse. Et puis les Troyens, le beau Paris, qui avait ravi en riant le cœur d'Hélène. Son père, Priam à la barbe blanche, roi de Troie, adoré des dieux pour sa douceur. Hécube, sa reine à l'âme guerrière, dont la matrice avait engendré tant de nobles descendants. Hector, son aîné, noble héritier et rempart de cette grande cité sainte de Mur. Et Ulysse, songeais-je, ce coquillage en forme de spirale dont les méandres recelaient toujours un recoin caché. Je commençais à voir ce qu'il avait voulu dire en parlant de la faiblesse de son armée. Ce n'était pas leurs muscles qui avaient faibli, mais leur discipline. Jamais on n'avait vu une brochette d'hommes plus fiers, plus hargneux et inflexibles, tous pétris de la certitude que la guerre échouerait sans eux. « Sais-tu qui gagne vraiment les guerres ?» me demanda-t-il un soir. Nous étions allongés sur les tapis au pied de mon lit. Jour après jour, sa vitalité revenait. Ses yeux étaient redevenus vifs, brillants comme la foudre. Lorsqu'il parlait, il était à la fois avocat, barde et charlatan itinérant, défendant sa thèse, divertissant son auditoire, soulevant le voile pour vous révéler les secrets du monde. Cela ne tenait pas juste à ses mots, même s'ils étaient plutôt intelligents. C'était tout à la fois, son attitude, ses gestes, les accents changeants de sa voix. On aurait presque dit qu'il jetait un sort, à ceci près que je n'en connaissais aucun d'aussi puissant. Ce don n'appartenait qu'à lui. Bien sûr, les généraux remportent les honneurs, et ce sont eux qui distribuent l'or. Sauf qu'ils vous appellent toujours dans leur tente pour vous demander des rapports sur vos actes au lieu de vous laisser agir. Les chansons les qualifient de héros. Ils constituent un autre rouage du mécanisme. Quand Achille met son casque et trace son chemin écarlate à travers le champ de bataille, le cœur des gens du commun enfle dans leur poitrine. Ils pensent aux histoires qu'on va raconter et brûlent d'y figurer. « J'ai combattu aux côtés d'Achille, j'ai été coude à coude avec Ajax, j'ai senti le vent de leurs célèbres javelots quand ils fendaient l'air. » Naturellement, ces soldats constituent eux-mêmes un autre rouage, car même faibles et vulnérables, exploités tous ensemble, ils vous mènent à la victoire. Néanmoins, il doit y avoir une main qui réunit l'ensemble pour en faire un tout. Un esprit qui définit les objectifs, sans reculer devant les nécessités de la guerre. Et c'est ton rôle. Ce qui signifie que finalement, tu es comme Dédale, mais qu'au lieu de travailler le bois, tu travailles les hommes. Le regard qu'il me lança alors, pareil au vin le plus pur. Après la mort d'Achille, Agamemnon est devenu le meilleur des Grecs. D'autres hommes ont combattu bravement, mais la vraie nature de la guerre les indisposait. J'étais le seul à avoir la carrure nécessaire pour saisir ce qu'il fallait faire. Son torse nu était quadrillé de cicatrices. Je le tapotais légèrement, comme pour essayer de savoir ce qu'il y avait à l'intérieur. Quoi, par exemple ? Promettre aux espions de les épargner afin qu'ils livrent leurs secrets et les tuer ensuite. Battre les hommes qui se rebellent. Cajoler les héros pour qu'ils sortent de leur bouderie. Maintenir le moral des troupes à tout prix. Lorsque le grand champion Philoctète a été estropié par une blessure infectée, les hommes ont perdu courage. Je l'ai donc abandonné sur une île en affirmant qu'il avait demandé à être laissé sur place. Ajax et Agamemnon auraient tambouriné aux portes closes de Troie jusqu'à leur mort, mais c'est moi qui ai imaginé la ruse du cheval géant et l'histoire qui a convaincu les Troyens de le tirer à l'intérieur. Je suis resté accroupi dans ce ventre de bois avec quelques hommes bien choisis, et si l'un d'entre eux tremblait de peur ou de fatigue, je lui tranchais la gorge. Quand les Troyens ont fini par s'endormir, nous les avons massacrés comme les renards massacrent des poules aux plumes soyeuses. Il ne s'agissait pas de récits qu'on pourrait chanter devant une cour, ni de fables du grand âge d'or. Mais bizarrement, dans sa bouche, il ne semblait pas déshonorant, simplement juste, inspiré et d'une sagesse pragmatique. « Pourquoi es-tu parti en guerre, si tu connaissais le vrai visage des autres rois ?» Il se frotta la joue. « Oh ! À cause d'un serment idiot que j'avais prêté. J'ai essayé de m'en libérer. Mon fils avait 1 an et je me sentais encore jeune marié. J'ai cru qu'il y aurait d'autres gloires et quand les hommes d'Agamemnon sont venus me chercher, j'ai feint la folie. Je suis sorti tout nu pour commencer à labourer un champ en plein hiver. Agamemnon a mis mon bébé devant la lame de la charrue. Bien sûr, je me suis arrêté et on m'a emmené avec les autres. Quel amer paradoxe, pensais-je. Pour garder son fils, il avait été obligé de le perdre. Tu as dû être en colère. Il leva les mains, puis les laissa retomber. Le monde est un endroit injuste. Ce qui est arrivé au conseiller d'Agamemnon, Palamède par exemple. Il avait fidèlement servi son armée, mais il est tombé dans une fosse lors d'une garde de nuit. Quelqu'un avait placé des pieux acérés au fond. Quelle terrible perte. Ses yeux étincelèrent. Si le bon Patrocle avait été là, il aurait pu dire « Monsieur, vous n'êtes pas un véritable héros, comme Hercule ou Jason. Vous ne prononcez pas les discours honnêtes issus d'un cœur pur. Vous n'accomplissez pas d'actes nobles à la lumière éclatante du soleil. » Mais moi, j'avais rencontré Jason, et je savais quel genre d'actes on peut perpétrer en pleine lumière. Je ne dis rien.